Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Raconte-moi tout dans le détail.
Un truc très étrange.
Comment tu descends en diable d'une balle dans
ce
l'eau?
Ce type est protégé de très haut par le prince des ténèbres en personne.
Raconte-moi
qu'est-ce
tout.
Qu'est-ce que t'en dis, toi, l'aubergiste? C'est quoi ton histoire?
Il y avait un avocat.
Quel avocat, Verbo?
Je suis maître Kobayashi.
Kobayashi, Kobayashi. Raconte-moi tout en détail.
Je travaille pour Kaiser Soze.
Persuade-moi.
Je ne sais pas vous, mais moi, les histoires policières, ça me fascine. Elles ont quand même donné à la littérature et au cinéma des genres à part entière. Des films noirs et des polars qui vous embarquent dans des récits tortueux où l'imagination n'a pas de limite. C'est pareil dans la réalité, particulièrement quand il s'agit d'affaires financières. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va découvrir les secrets de ceux qui traquent l'argent sale ou mal acquis. Un nouveau temps, nouveau crime. Depuis l'attaque des trains d'or à dos de cheval au XIXe siècle, vous pensez bien que la délinquance financière s'est adaptée. Alors pour ces crimes dont l'argent est l'objet et le mobile, il y a en France une toute nouvelle police, l'OCLIF. L'O quoi ?
Vous avez déjà entendu parler de la brigade financière. Eh bien, c'est un peu ça, mais en plus grand.
Valérie de Senneville est grand reporter aux Échos. Elle est entrée pour les Échos Week-end dans les secrets de la police financière.
En fait, le 1er juillet 2019, le ministère de l'Intérieur a créé, au sein de la direction centrale de la police judiciaire, une sous-direction spécifique entièrement dédiée à la lutte contre la criminalité financière. C'est cette sous-direction menée par Thomas de Ricolfis, un grand flic de la lutte contre la criminalité financière. C'est lui qui a dirigé l'ABF en son temps, etc. Et donc, cette sous-direction a pour mission la prévention et la répression des formes complexes, organisées et transnationales de la criminalité financière. C'est sa propre définition. Voilà pour la théorie. Maintenant, en pratique, comment ça se passe? Au sein de cette sous-direction, on va trouver l'OCLIF, c'est-à-dire l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, mais aussi la BNRDF, la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, la BNLCCF, la Brigade nationale de lutte contre la corruption et la criminalité financière, sans oublier l'Office central de répression de la grande délinquance financière, OCRGDF, et la Brigade nationale d'enquête économique, BNEE, et la Coordination nationale des groupements interministériels de recherche, CNJR. Ouf, enfin, vous l'entendez, Michel, le ministère de l'Intérieur semble adorer les acronymes imprononçables. Mais il ne faut pas s'y tromper. Cette nouvelle sous-direction, en fait, quand j'ai commencé à enquêter sur eux, ça m'a fait penser à cette réplique de Caudière, mais dans la bouche d'un de ses personnages dans le film « Les Tontons Flingueurs ». Séparément, ils sont déjà pas drôles, je suis pas pressé de connaître leur numéro de siamois. Bien loin de ça, c'est pas des siamois, mais ils sont bien plusieurs, une vraie fratrie, pour gérer les enquêtes les plus complexes. Depuis l'affaire Fillon, à la perquisition chez Google, au dossier des biens mal acquis, en passant par la découverte de l'affaire Virus, qui a permis de mettre au jour un vaste réseau de blanchiment d'argent de la drogue.
Alors, j'imagine que tout se passe dans la plus grande confidentialité, pour ne pas dire dans le secret. Mais Valérie, que savez-vous de la façon d'opérer de cette direction d'un nouveau genre dans un nouveau monde ?
Pour la première fois, donc, pour les Échos Week-end, j'ai été admise dans tous les services. Donc, j'ai pu voir comment ces enquêteurs hautement spécialisés, ces officiers de police judiciaire, fonctionnaient. Il faut d'abord dire, Michel, que ces enquêteurs restent avant tout des policiers. Alors certes, ils ont des techniques d'enquête sophistiquées, je vais vous en donner des exemples, mais ils pratiquent aussi les filatures à l'ancienne et les interpellations à l'heure du laitier. Ça reste des flics Alors, un exemple. Guillaume Hézard est le patron de L'Oclif. Il m'a raconté qu'en 2016, l'opération Tulip, très joli nom, avait conduit les officiers de police judiciaire à réaliser l'une des plus importantes perquisitions jamais conduites en France sur une entreprise multinationale. C'était la perquisition Google. Des masses considérables de données informatiques avaient été saisies. Et en 2019, on se souvient que le géant avait accepté de débourser près de 1 milliard d'euros pour clore le contentieux en signant une convention judiciaire d'intérêt public, ce qu'on appelle une CJIP. Et donc, Guillaume Hézard m'a expliqué qu'il y a 20 ans, quand ils allaient perquisitionner une société, il me dit « toutes les archives étaient rangées dans des classeurs et stockées dans les entrepôts. Mais aujourd'hui, tout est numérisé. Les trois quarts du temps, dans une perquisition, sont consacrés, me dit-il, à récupérer des données numériques sur les disques durs, les téléphones, les clés USB, le cloud. Il faut copier tout ça, toute cette information, en respectant un protocole. Encore une fois, ce sont des flics, donc ça va servir dans une procédure judiciaire. Donc, il faut pouvoir certifier que rien n'a été modifié. Puis, ils vont l'exploiter.
Comment une affaire émerge-t-elle dans leur radar? Qu'est-ce qui les met sur une piste?
Un exemple, dans l'affaire du coiffeur Franck Provost. Vous savez, c'est ce coiffeur qui a un réseau en France de salons de coiffure qui est soupçonné de fraude fiscale massive. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une succession et donc les gens ont découvert, enfin, et peut-être étaient-ils déjà au courant, j'en sais rien, en tout cas, ils ont découvert à cette occasion-là ce logiciel qui escamotait les paiements en liquide sans laisser la moindre trace. Donc, l'affaire n'aurait sans doute jamais été révélée sans ce violent règlement de compte à la tête de l'entreprise. Et donc, Franck Provost a été mis en examen en décembre dernier pour fraude fiscale aggravée et abus de biens sociaux. Et puis, donc, il y a à côté, il y a les lanceurs d'alerte. Et puis, il y a bien sûr ce que la sous-direction appelait les listes. Les Dubai Papers, les Panama Papers, etc. Tout ça, ce sont des données en matière fiscale, notamment donc pour L'Oclif, principalement, et la BNRDF, sur lesquelles ces policiers vont travailler en priorité.
Ah oui, ça vient la plupart du temps de l'intérieur?
Ben, beaucoup, parce que c'est difficile d'aller traquer. Alors déjà, ils ont, on va le voir sans doute, je vous expliquerai aussi peut-être comment ils vont déjà devoir remonter tous les flots d'argent sale. Et souvent, c'est pire que de la marche à contre-courant, hein, parce que le but, c'est de, justement de tout cacher. Donc, il va falloir utiliser le moindre indice et le moindre mouvement pour eux.
On imagine bien le travail de fourmi, mais du côté des clients, si je puis dire, la tâche est-elle particulièrement ardue et pourquoi?
Pascal Repingon, qui est le commandant de police, qui a dirigé les interrogatoires dans l'affaire Big Malion et ceux de l'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, un dealer sait qu'il est dans la délinquance, mais nos délinquants, à nous, ne se vivent pas comme tels. La plupart du temps, ils ne comprennent même pas ce qu'on leur reproche. Alors voilà, ces clients un peu particuliers, il a fallu adapter les méthodes, et notamment adapter les interrogatoires. Le face-à-face entre ces flics un peu spéciaux quand même et ces personnes socialement très insérées ressemble souvent à des véritables parties d'échecs. Hein. Marie-Christine Andrieux, qui est commandante de police, m'a raconté qu'ils arrivent avec trois ou quatre avocats et le rapport de force s'instaure dès le début. Mais leurs réponses sont bien souvent moins importantes que nos questions, me dit-elle. En fait, ce qui est important, c'est de faire la démonstration des faits plus que de savoir ce qui a été répondu. En fait, l'interrogatoire, il arrive à la fin. Ils ont déjà tout. Ils ont déjà tout. Mais ils m'ont raconté aussi d'autres anecdotes. Ce sont des personnages tellement insérés qu'ils n'imaginent pas que, justement, ça reste des flics. Donc, ils peuvent les placer sur écoute, etc. Il y en a même qui s'insurgent. Comment? Vous m'avez écouté? Ben oui, on vous a écouté. Voilà. On a écouté vos conversations téléphoniques. C'est une surprise pour eux.
Valérie, cette police qui est sur les pistes de l'argent sale ou mal acquis, vit-elle un moment particulier de son histoire? Parce que suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et aux sanctions, les biens des oligarques russes sont dans le viseur, non?
D'abord, il faut savoir qu'ils ne peuvent pas s'auto-saisir. Hein. Ça reste des policiers, donc ils sont saisis par la justice. Donc, il faut d'abord falloir attendre que la justice les saisisse. Mais ce seront eux qui seront en première ligne, évidemment, pour enquêter. Surtout que Bruno Le Maire, je vous le rappelle, a estimé à presque 1 000 milliards de dollars les sommes qui pourraient être saisies ou gelées. Donc, Bruno Le Maire a annoncé la création d'une task force pour débusquer le magot. Mais quand ils s'attaqueront au dossier oligarque, nul doute que les enquêteurs mettront certainement en place les mêmes méthodes de travail que dans la traque des fraudeurs des Panama ou des Dubai Papers, c'est-à-dire ce qu'ils appellent des enquêtes en râteau pour cerner et suivre l'argent sale au sein de ces montages complexes à base de sociétés offshore, de prête-noms et d'intermédiaires.
Je viens de l'apprendre il y a quelques instants, cette condamnation désormais définitive dans l'affaire des biens mal acquis. La Cour de cassation vient de rejeter le pouvoir du fils du président de Guinée équatoriale, Théodora Obiang. Il avait été reconnu coupable de s'être constitué un patrimoine frauduleux en France. Cette condamnation confirmée, cela signifie que le pays sera le premier à bénéficier du tout nouveau mécanisme de restitution des biens mal acquis. L'objectif, rendre l'argent aux équato-guinéens.
La traque d'argent sale auprès de membres gouvernementaux ou de proches, c'est périlleux ?
Périlleux, je ne sais pas, mais cela demande énormément de travail. Donc, je vous l'ai dit, dans cette sous-direction, il y a aussi l'OCR-GDF. Et c'est elle, et notamment Jean-Philippe Rapaz, qui a dirigé l'enquête sur les biens mal acquis, et celle, plus spécifiquement, concernant Théodora Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale. Et il m'a raconté qu'ils ont commencé par se poser pas mal de questions, notamment sur l'immunité des personnes concernées. Il leur a fallu à eux aussi repenser les méthodes d'enquête en effectuant des investigations à rebours, c'est-à-dire en partant des investissements réalisés par Théodora Obiang et de l'inventaire patrimonial effectué par la plateforme d'identification des avoirs criminels. Il a fallu ensuite une semaine, m'a-t-il raconté, une semaine pour perquisitionner les 3000 mètres carrés du fameux hôtel particulier de l'avenue Foch. Vous vous souvenez ? C'est une semaine de perquisition, vous vous rendez compte ? Parce qu'il faut non seulement faire le procès verbal de perquisition, mais il faut tout étiqueter, faire l'inventaire, les sceller et ensuite faire venir des transporteurs spécialisés pour éviter qu'il y ait de la casse, car ils saisissaient des objets à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, il ne fallait pas non plus qu'ils soient cassés. Il m'a raconté que, notamment, il y avait une pendule estimée à 4 millions d'euros ou une statue de 3 mètres de haut. Donc, tout ça, ça ne se transporte pas n'importe comment. Et il m'a raconté aussi un truc assez drôle, c'est que la seule chose qu'ils n'ont pas saisie matériellement, ils ont inventé la saisie sans déposition, c'est la table de la salle à manger qui était tellement grande, en fait, qu'il aurait fallu casser les murs de l'hôtel particulier pour pouvoir la sortir. Parce que c'est ce qu'ils avaient fait pour la rentrée, ils avaient cassé le mur. Ensuite, une fois tout ça fait, il a fallu relier le 42 avenue Foch à M. Obiang et démontrer que celui-ci était bien l'unique occupant et propriétaire des lieux, que ce n'était pas une ambassade. Et vous vous souvenez qu'à un moment donné, ils ont voulu le faire croire, et remonter les sociétés écrans basées en Suisse. Et d'ailleurs, la coopération avec la Suisse a été primordiale dans cette affaire. Et donc, je vous rappelle qu'en juillet dernier, Théodora Obiang a été le premier dirigeant africain à être condamné à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous ses biens saisis pour blanchiment d'abus de biens sociaux et détournement de fonds publics et d'abus de confiance. D'autres enquêtes sont en cours sur le même modèle, mais tous ces biens-là, donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ces biens, toute cette statue à 4 millions de francs ? Eh bien, ça part dans une institution qui s'appelle l'AGRASC, et l'AGRASC fait, par exemple, là, bientôt, elle va faire une vente aux enchères des grands crus qu'ils ont saisis. Alors après, qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Ça, c'est très intéressant aussi, parce que normalement, ils devraient retourner à l'État à qui ils ont été dérobés. Mais s'ils redonnent à l'État, c'est toujours la famille Obiang. Donc comment on fait ? Tout ça, c'est à l'étude et c'est assez intéressant.
Et ce cas précis ne pourrait-il pas servir de matrice, en quelque sorte, dans le cas des oligarques, si et quand il se présentera ?
Tout à fait. Et c'est très intéressant, notamment sur la restitution des sommes. Il faudrait que ça aille au peuple de Guinée équatoriale et pas aux dirigeants, parce que sinon, c'est un vrai problème. Comment on fait passer ça? Alors, ils vont passer sans doute par des ONG ou des choses comme ça, mais là, c'est pas pour l'État français. Là, c'est pour la Guinée équatoriale. DJ, oui, dis-moi l'argent. Prends le cash. J'étais de la banque avant qu'on se fâche. DJ, oui, dis-moi l'argent. Prends le cash.
J'étais de la banque avant qu'on se fâche. Quand il s'agit des circuits de l'argent de la drogue, là, tout se complique, non? Et il n'y a même plus de limite à rendre les choses compliquées.
Ah oui. Thomas de Ricolfis, il a un mot pour dire ça. Il dit « tout est financier, en fait ». Tout à l'heure, j'ai cité les Tontons Flingueurs. Là, j'ai envie de citer la série The Wire, que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle « Sur écoute » en français. Et dans The Wire, il y a Lester Freeman, un des héros de la série, qui dit « si vous suivez la drogue, vous attrapez les camés et les dealers. Mais si vous vous mettez à suivre l'argent, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où ça vous conduira. Parce que, effectivement, suivre l'argent, ça fait remonter la filière. C'est ce que Thomas de Ricolfis dit. Toute criminalité est financière. D'ailleurs, il emploie des métaphores commerciales. Il y a des succursales, il y a des holdings. Voilà, tout cet argent, il ne faut pas croire que c'est du petit malfrat. Hein. Là, quand on arrive à ce niveau-là, c'est du lourd, comme on dit. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner l'exemple de l'affaire Virus, qui est la première grande enquête qui a mis au jour ces circuits de blanchiment d'argent de la drogue. Parce que, en fait, si vous arrêtez le dealer, il va quoi? Vous allez saisir 3 000, 4 000 euros, voilà. Mais cet argent, il faut bien le blanchir à un moment donné. Il faut donc qu'il retourne dans l'économie normale. Hein. Et c'est tout ce système-là que l'OCRGDF va analyser et sur lequel il va enquêter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Virus? C'était la première fois que le lien était fait entre criminalité organisée et blanchiment d'argent. L'enquête a permis de mettre à jour un vaste réseau dans lequel trafiquants de drogue et fraudeurs fiscaux, on les retrouve, naviguer ensemble sans jamais se croiser. Tout ça sur la base d'un système financier occulte et séculaire qui s'appelle l'Awala, où les blanchisseurs avaient bâti une gigantesque entreprise d'argent. C'est comme ça que des gens bien sous tout rapport, des médecins, se sont retrouvés sur le même banc que des dealers. Alors, un des policiers qui a participé à l'enquête me dit, en fait, au départ, on a suivi des gens qui venaient et remettaient un sac en plastique rempli de billets. Au lieu de suivre la drogue qui partait dans un sens, ils ont suivi les billets qui partaient dans l'autre pour remonter la chaîne. Et parmi les bénéficiaires de cette gigantesque lessiveuse, alors je pourrais vous éviter le système, mais il faudra un paperboard. Hein, donc, il faut savoir que juste que ça a permis de blanchir près de 1 milliard d'euros.
Ah oui? Et comment se rejoignent-ils? On ne voit pas bien le lien entre fraude fiscale et drogue.
Alors, imaginons un Français qui fraude le fisc. Il envoie son argent à Singapour, etc. La Wala, c'est un système, ça existe dans les pays du Maghreb. Donc, le système de la Wala, là, c'était géré directement depuis le Maghreb. Ça ne se passait pas en France. Donc, cette personne qui fraude le fisc, son argent, il est parti à Singapour, etc. Mais elle en a besoin. Et comment le rapatrier? Elle ne peut pas se refaire un virement à elle-même. Parce que sinon, le fisc va lui dire... Donc, il passe, c'est de bouche à oreille, par quelqu'un qui lui dit « Mais moi, je peux t'avoir du cash si tu veux. Simplement, tu me promets que de ton compte à Singapour, ça va aller sur un compte au Maroc ou etc. » Généralement, il y a 2 ou 3 personnes qui me dira « L'argent est arrivé chez moi, donc moi, je peux te remettre du cash. » Et donc, la personne qui récupérait le cash, ce n'était pas un dealer. C'était, je vous dis, des personnes bien sous tout rapport, des petits chefs d'entreprise, des médecins, voilà, qui... Et ils ne savaient pas que le cash qu'on leur remettait, c'était en fait l'argent de la drogue. Et donc, l'argent de la drogue était blanchi comme ça, puisqu'il était payé à l'extérieur au Maroc et il était sorti artificiellement de France. Et alors là, c'est beaucoup utilisé aussi dans le BTP, où il y a beaucoup de travail dissimulé. Pour payer les salaires, on a besoin de liquide. Donc, un des enquêteurs me dit « Prévenez vos lecteurs, vos auditeurs que de ne pas faire ça, quoi, parce qu'ils risquent de se retrouver, encore une fois, sur les bancs des accusés avec des dealers. » Ils ne savaient pas, honnêtement, enfin honnêtement, si on peut utiliser ce mot, que c'était de l'argent de la drogue.
Comment se place la France dans cette lutte Et quelle est son histoire ?
La lutte contre la corruption, c'est pas nouveau. Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on y mette vraiment les moyens. D'ailleurs, dans son dernier rapport d'évaluation publié en 2021, l'OCDE avait souligné les progrès remarquables de la France depuis la précédente étude qui datait de 2012. Et il cite notamment la loi sur la transparence de 2013 et 2016 qui ont conduit justement à la création de ce fameux OCLIF, mais aussi, vous le connaissez aussi, le Parquet National Financier, le PNF, de l'Agence française anticorruption, et puis la CGIP, etc., etc. Et donc, le rapport de l'OCDE note que le nombre d'enquêtes ouvertes pour corruption a été multiplié par 3,5 depuis 2012. Donc, seules, disent-ils, 33 enquêtes avaient été lancées entre 2000 et fin 2012. Et entre fin 2012 et 10 septembre 2021, 108 enquêtes ont été ouvertes ou étaient encore en cours au moment de la publication du rapport. Et là, dans la semaine qui vient, devrait arriver le rapport du GAFI qui évalue les États en fonction de leur bonne volonté ou surtout de leur activisme dans la lutte contre la corruption, la grande corruption et la criminalité financière.
C'est une évolution qui suit une prise de conscience ?
Et bien sûr, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Toute criminalité est financière. Il y a un moment donné où tout cet argent, il doit être blanchi d'une manière ou d'une autre, que vous soyez fraudeur fiscal ou dealer. Donc, c'est pour ça que cette prise de conscience que toute criminalité était financière a complètement changé la donne de ces enquêtes-là. Et il faut y mettre les moyens parce que effectivement, quand vous faites des virements d'un clic sur ordinateur, il faut que eux, ils puissent suivre le mouvement. Hein.
Merci à Valérie de Senneville, grand reporter aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.